Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence. Mon invité Frédéric Petit, député MoDem des Français établis hors de France pour la circonscription Allemagne, Europe centrale et Balkans. Frédéric Petit, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Avec plaisir. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale vient de vous confier avec votre collègue Sofia Chicky, députée de Paris, la rédaction d'un rapport d'information sur la relation entre l'Union européenne et la Chine. Mon première question, Frédéric Petit, pourquoi vous a-t-on choisi ?
Ah, alors ça, c'est très compliqué. On ne choisit pas un député. On choisit des... Il y a des rotations, etc., entre les groupes parlementaires. J'ai été choisi par mes collègues MoDem à partir du moment où on avait la place. Et j'ai levé le doigt parce que c'est un sujet qui m'intéresse.
Alors, quel est l'objectif de ce rapport ?
Alors, c'est... Bon, les rapports entre l'Union européenne et la Chine, il y a des rapports tout le temps. Hein. On se pose des questions tout le temps. Dans tous les sens. Moi, c'est un sujet, quand je suis arrivé en 2017, qui a très vite, dont j'ai compris très vite l'importance, la politique des routes de la soie, la dépendance allemande à la Chine, c'était des choses que je disais déjà et que je rencontrais sur le terrain en Allemagne, chez les jeunes d'ailleurs, chez les jeunes qui commençaient à se poser des questions en Allemagne. Hein, là, le Zeitwende, ça vient de loin en Allemagne, contrairement à ce qu'on croit. En disant des jeunes qui disaient mais comment on peut construire un pays en ayant une dépendance si énorme à un système qu'on ne soutient pas. Voilà. Donc tous ces rapports, par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que ces évolutions vont très vite. Ça change assez vite. Enfin, assez vite par rapport à les relations entre l'Union européenne et la Chine n'auraient pas été du même contenu. En général, il y a 4 semaines, depuis la visite de Lavrov de ces derniers jours à Pékin, il y a quelque chose de plus qui apparaît. Hein. Est-ce qu'il y a un bloc, est-ce qu'il n'y a pas un bloc, etc. Donc, c'est important qu'on fasse des espèces de repères, des indicateurs, c'est-à-dire qu'on suive les très gros rapports qui sont produits d'ailleurs par la Commission européenne ou sur commande de la Commission européenne, qui sont de très bons rapports. Donc on n'a pas la prétention de refaire ça et puis de dire ils se sont trompés ou nous on va le faire mieux, mais c'est important de mettre des indicateurs pour suivre, voilà, des indicateurs de suivi.
Le rapport est prévu tout de même pour la fin de l'année, c'est ça ?
C'est ça, fin de l'année.
Fin de l'année, donc on va suivre avec vous peut-être l'évolution au fur et à mesure. Bah, l'Europe est au cœur de notre actualité, puisque nous sommes à moins de 2 mois des élections européennes. Les Français de l'étranger sont appelés à se prononcer. Vous, Frédéric Petit, comment vous faites pour convaincre les habitants de votre circonscription à aller voter ?
Alors déjà, les habitants de ma circonscription, ce n'est pas les plus difficiles à aller voter aux européennes quand même. Hein. Voilà. Enfin, c'est assez difficile sur le plan administratif parfois, parce que des fois, ils découvrent en Allemagne qu'ils étaient prévus de voter avec les Allemands parce qu'ils sont aussi... Voilà. Donc, je dis à tous mes concitoyens jusqu'à la fin du mois, vérifiez bien de vive voix si vous pouvez bien voter, si vous avez envie de voter au consulat français et si vous y êtes bien inscrit correctement pour ces élections. C'est assez particulier. Après, je crois qu'il y a une inquiétude, une tension. Dans le meilleur des cas, c'est une concentration, un retour aux sources, quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que les gens dans ma circonscription, c'est les gens qui habitent à la frontière avec l'Ukraine, les gens qui habitent en Ukraine, les gens qui habitent en Roumanie et qui ont des contacts avec la Moldavie, il n'y a pas besoin de leur expliquer de 50 fois qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est en jeu. Donc, je crois que les gens sont a priori plus motivés. Ce qui est le but de ce que j'essaye de faire, moi, c'est de sortir du ping-pong franco-français, quoi. C'est-à-dire, il a une belle gueule, donc je vais voter pour lui. Elle parle bien, donc je vais voter pour elle. Lui, je l'aime pas. Elle, je l'aime plus, etc. Mais d'arriver à regrimper dans des zones où on parle vraiment des réalités et de ce que c'est que l'Union européenne. Comme tous les ans, hein, comme toujours, je fais des séminaires citoyens. Donc là, évidemment, on parle beaucoup d'Europe dans ces séminaires citoyens. Hier, c'était intéressant, j'ai eu une critique sur quelqu'un qui dit « Mais regardez, depuis 20 ans, les slogans de tous les partis à toutes les élections européennes, c'est toujours le même, c'est « Il faut changer l'Europe ». Donc, c'est que ça marche pas. » Et j'ai répondu, la politique, ça sert à changer demain, et voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui ont marché, mais c'est pas les mêmes. Voilà, donc on ne se rend plus compte de ce qui a marché c'est quelque chose d'extrêmement précieux ce qu'on a ici. Je fais une comparaison avec Israël et Palestine assez souvent ces derniers temps. Quand je suis allé à Hébron un jour, j'ai mis 15 jours à m'en remettre. Je crois qu'à Hébron, la haine est lisible sur les murs, quoi, tellement la ville est partagée, etc. Et j'avais découvert qu'à Hébron, il y a deux tuyaux d'eau dans le trottoir. Il y a deux systèmes d'eau. Donc un qui marche pas mal, c'est celui pour les colons, et l'autre qui marche paille que vaille, c'est celui pour les Palestiniens. Et ça m'avait... Bon, au-delà du fait qu'il y a un plexiglas pour pas que les gens se tirent dessus par-dessus le tombeau d'Abraham, ce qui est une image que j'ai encore dans la tête. Mais cette division-là m'avait marqué et j'avais fait le rapprochement avec la construction de l'Union européenne. Je me dis, la réponse européenne en Palestine, c'est on continue à se battre, d'accord, on n'est pas d'accord, mais l'eau, on la gère ensemble. Voilà. Depuis, j'ai découvert qu'il y avait des mairies, dans le Negev, par exemple, qu'il y a des gens des deux côtés qui travaillent sur l'eau ensemble et qui ne se tapent pas dessus quand il s'agit de l'eau, parce que c'est un objectif commun.
C'est vrai qu'au niveau européen, il y a effectivement ce que vous dites, des objectifs communs, des sujets qui sont harmonisés, mais il y en a un sur lequel il existe encore des différenciations entre les pays, c'est celui de la fin de vie. Et le gouvernement vient en France de présenter un projet de loi. Beaucoup attendaient une réponse qui irait davantage vers un système comme il existe aux Pays-Bas ou en Belgique, c'est-à-dire avec une euthanasie plus accessible. Il apparaît dans le projet de loi que ça sera plus compliqué que prévu. Est-ce que votre opinion par rapport à ce premier texte qui est sur la table de l'Assemblée nationale ?
Alors d'abord, je vous rappelle que c'était le thème de mon dernier séminaire citoyen. Donc ça m'a beaucoup aidé. Hein. Puis j'étais avec quelqu'un. J'ai toujours des experts qui viennent non seulement enrichir mes concitoyens, mais aussi m'enrichir moi. Hein. Et c'était assez impressionnant. Alors petite remarque aussi de transition sur l'Europe. Je n'ai absolument pas envie de vivre dans une Europe où ça serait une décision qui serait imposée au pays. Hein. C'est chaque pays qui fait son c'est le domaine où on n'a pas besoin d'être ensemble. Hein. Et puis, de toute façon, le domaine de la fin de vie, à la limite, c'est 500 millions de citoyens hein, qui vont décider tout seuls comment ils se situent par rapport au mystère de la vie. Et heureusement, ça ne doit pas bouger. Alors, notre loi en France, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a un consensus, à mon avis, sur le fait que ce qu'on appelle d'accompagner jusqu'au dernier moment les gens qui savent qu'ils vont partir et de le faire avec leur famille. C'est des équipes. C'est des équipes absolument extraordinaires hein, parce que il faut bien comprendre, ce sont des équipes. Moi, j'ai découvert que c'était des équipes où il n'y a pas que des médecins. Il y a des notaires, il y a des psychologues, parce que tout se joue à ce moment-là. Tout ce qui se joue pour que ça se passe bien, c'est ça. Et je trouve ça, moi, enfin, c'est vraiment un des équipes. Voilà, si je veux dire, c'est un des métiers que j'aurais pu faire. Par exemple, pour être très simple, j'ai discuté longuement avec un psy qui avait décidé de venir travailler dans ces équipes, et c'était impressionnant. Donc ça, c'est la partie accompagnement. Donc je vais retrouver le terme, c'est l'article 1 hein, qui parle de ça, où on reproche souvent au gouvernement qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens, mais c'est pas uniquement un problème de moyens. C'est toujours pareil. Donc c'est comme quand on dit il n'y a pas assez de médecins, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Non, il n'y a pas assez de médecins parce qu'il n'y a pas assez de médecins formés. Il y a un problème dans les soins palliatifs. Voilà, j'ai trouvé dans l'organisation des soins palliatifs en France, on a un très gros problème d'en faire un métier noble. Non, voilà, et donc on n'a pas de candidats. C'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'on a, mais on s'est aperçu, par exemple, moi, en travaillant sur ce sujet, je m'étais aperçu qu'il y avait un très, très petit nombre d'heures dans les études de médecine générale consacrées aux soins palliatifs. Donc, personne n'a envie d'y aller, en fait. Voilà. Et on le comprend.
La douleur reste tabou. Enfin,
on le comprend parce qu'un médecin, généralement, il s'engage pour sauver la vie. Il s'engage pas pour dire bon bah on va calmer la douleur et je peux rien faire. Donc c'est une autre manière de se former et je trouve que ça serait enfin Je considérerais, moi, que ça serait une belle évolution, signe des temps, que quand on s'engage en médecine au XXIe siècle, on sait qu'on n'aura pas, qu'on ne va pas toujours gagner. Et que ça soit rappelé dans la, dans, dans la formation. Donc voilà, c'est mes, donc soins palliatifs. Après, il y a un deuxième sujet qui est le suicide assisté, ce qu'on appelle le suicide assisté, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a le droit de dire, alors avec tous les, avec tous les, toutes les protections pour que ça soit pas, pour que ça soit pas dévoyé. Ouais. Il y a des pays où ça existe. C'est la Suisse, le plus, l'exemple de, le plus achevé, c'est la Suisse. C'est moi là, j'ai deux lignes rouges. Hein. J'ai d'abord première ligne rouge, c'est que c'est un c'est tout ce qui tourne autour de l'expression de la volonté, que ce soit absolument personnel, garanti, etc. Il y avait une question par exemple que j'avais posée où j'ai pas encore la réponse. Hein, j'oublie. Je vais bien analyser le texte avant de le voter, mais où je suis, c'est le problème des tutelles, les mises sous tutelle. Où j'ai pas une réponse claire, quoi. Je suis mal à l'aise avec ça. Hein, c'est-à-dire que les tutelles complètes, je parle. Hein, on a des systèmes de tutelle. Bon, est-ce qu'on met quand on a un pas un conflit, mais peut-être une tension, une situation, disons, un peu contradictoire, on a une tutelle et des souhaits anticipés, on fait quoi? Il y a des choses qui sont très complexes. Et la deuxième ligne rouge, c'est on ne peut pas imposer. Autant je suis pour que les médecins soient formés aux soins palliatifs de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus motivante, beaucoup plus systématique, on ne peut pas imposer un geste de mort à un médecin qui le refuserait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, pour moi, c'est une ligne rouge. Ce n'est pas un geste qu'on peut imposer à quelqu'un. Autant je suis pour la liberté de l'avortement, je ne serai jamais pour l'imposition. Quoi. Donc voilà, on ne peut pas obliger ça. On ne peut pas imposer. Il doit y avoir une clause de conscience. Pour moi, c'est une évidence.
Éric Petit, sur le suicide assisté, quelle est votre position?
Enfin, je ne suis pas encore convaincu par le suicide assisté, on va dire, dans la forme où on me l'a présenté. Je n'ai pas encore complètement approfondi le texte. Hein. Mais voilà. Donc, et puis, on a complète liberté de vote dans ce domaine-là, chez les démocrates. Donc, il y a des gens qui voteront contre, il y a des gens qui voteront pour. Pas les soins palliatifs, hein, la partie suicide assisté. Et on en discute, c'est d'ailleurs de belles discussions dans le groupe, ça, puisque le rapporteur du texte, Olivier Falorni, fait partie de notre groupe.
Fait partie du groupe Polem. Mais justement, il y a une commission spéciale qui a été, oui. Qui a été créée. C'est peut-être par rapport à ce que vous avez dit au début aussi, au niveau des parlementaires, en fonction des possibilités d'avoir des représentants des groupes dans ces organisations. Mais il n'y a pas de députés représentant les Français de l'étranger.
Oui, alors.
Ça n'importe oui. pas, il n'y a pas de préjudice sur le travail, vous, par exemple, avec vos expériences que vous,
non,
vous apportez.
Non,
vous
parce
pouvoir...
que, non, parce qu'une commission, d'abord, une commission, j'ai le droit d'y aller. Hein. Je n'aurais pas le droit de vote, mais j'ai le droit d'y aller. Moi, je crois que c'est très bien qu'on ait fait une commission spéciale, parce que si on n'avait pas fait une commission spéciale, on aurait été obligé de faire ça en commission des affaires sociales, ou c'est pas le. Voilà, en commission des, voilà, on, c'est très bien que ça soit des gens. Voilà. Après, les règles de répartition. Font que ben au MoDem c'était pas mon tour hein, de toute façon et on n'a qu'un Français à l'étranger donc c'était voilà je pense que les gros partis auraient pu mettre des Français à l'étranger. Après il y a des choses que les Français à l'étranger peuvent apporter au débat et que moi j'apporterai que je connais. Je crois que c'est intéressant que on puisse amener à certains moments du débat des choses qui viennent des autres, la manière non seulement dont la législation des autres pays est construite, mais également comment ça se fait. En particulier dans le contrôle qui est assez intéressant. Je trouve que la Suisse, c'est pour ça que c'est intéressant. Je trouve que c'est dans la manière dont leur système, on peut en parler, mais aussi la façon dont il n'y a pas de tabou et dont on est sûr que le système marche comme il doit marcher. C'est parfois, nous, en France, on a l'impression qu'on a fait une loi, on a réglé le problème, mais il n'y a plus besoin de s'en occuper. Quoi. Voilà.
Mais pas de tabou, on note ces mots de votre part. Merci Frédéric Petit.
Merci à vous, à bientôt.
En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur lesfrançais.presse.